Alors, je peux pas du tout accuser qui que ce soit de la programmation, puisque c'est moi qui l'ai faite. Et je voulais mettre personne dans cette position difficile, tout d'abord de prêcher après le repas, et ensuite de prêcher sur ce sujet-là. Hein, juger ou ne pas juger, telle est la question. Alors, bien sûr, hein, ce titre s'inspire d'une tragédie shakespearienne, hein, que vous connaissez tous, bien sûr, vous l'avez reconnu. Mais le titre en lui-même, pour moi, expose un drame qui est bien plus grave, hein, dans ses conséquences, pour le chrétien et pour l'œuvre du Seigneur. On a parlé déjà ce matin un peu, hein, certains ont touché, on parlait du politiquement correct, hein, ou bien de cette tolérance presque à outrance que l'on vit aujourd'hui dans notre société, hein, qui est avancée, proclamée, louée par les médias, par les politiques, hein, par les hommes de société, etc. Et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est que bon, c'est ces mêmes personnes, hein, qui poussent, hein, ce politiquement correct, cette tolérance, eh bien, a des effets sur le christianisme aujourd'hui. Ainsi bien que aujourd'hui, hein, il devient difficile, de plus en plus difficile, de partager la parole de Dieu, hein, que ce soit en France ou même aux États-Unis, hein, des pays qui sont supposés défendre la liberté de parole, d'expression, de pensée, nous retrouvons de plus en plus d'attaques envers les chrétiens, hein, et l'une des accusations que l'on adresse le plus souvent aux chrétiens, c'est « vous n'avez pas le droit de juger ». Hein, parce que bon, les chrétiens vont être ouverts, hein, en ce qui concerne des sujets comme l'avortement, l'homosexualité, le mariage pour tous, hein, ils vont partager, hein, leur croyances, leur foi en ce qui concerne l'euthanasie, ou bien même le divorce, ou d'autres sujets. Et donc c'est un sujet qui est fort important et que je pense que beaucoup de chrétiens doivent étudier avec attention, avec précaution, parce que le deuxième danger ne vient pas forcément du monde, mais même de l'intérieur des églises, où les chrétiens eux-mêmes, hein, utilisent cette excuse, hein, vous n'avez pas le droit de me juger. Hein, lorsqu'un pasteur va reprendre un frère qui vit dans le péché, lorsqu'un frère va reprendre quelqu'un d'autre qui a commis un péché, eh bien, on fait souvent face à cette excuse, vous n'avez pas le droit de me juger. Hein, ils utilisent les paroles même du Seigneur. Bon, ça se comprend de la part de chrétiens, mais de la part d'un converti. C'est intéressant que quand ça les arrange, ils vont citer les Écritures, mais le problème c'est qu'ils citent souvent les Écritures complètement hors de contexte, pour, encore une fois, faire dire, hein, ce qu'ils veulent. Donc, comme je disais, hein, la plus grande tragédie pour moi, c'est que les chrétiens eux-mêmes en arrivent à penser que tout jugement doit être interdit, que tout jugement, hein, n'a pas sa place dans le corps de Christ, que si on est chrétien, on ne devrait pas juger les autres. Hein, aujourd'hui, on parle d'avoir une attitude christique. Et l'idée que les gens se font, qu'ils soient inconvertis ou chrétiens, hein, l'idée qu'ils se font de Christ, souvent est faussée parce que ils ne lisent qu'une partie des évangiles et délaissent les autres, ou délaissent même les écrits, hein, des apôtres, au profit de ce qu'eux veulent voir et croire en la personne de Jésus-Christ. Il y a plusieurs mois de cela, nous avions Larry Pierry, qui est missionnaire en Italie, qui enseigne ici à l'Institut. Et comme il prend son avion à Beauvais, bon, il est venu chez moi vendredi soir après avoir enseigné ici à l'Institut la semaine. Et samedi, je l'ai emmené à Beauvais, mais avant cela, j'ai pris le temps d'aller lui faire visiter un peu la ville d'Amiens. Et on s'est retrouvé dans la cathédrale d'Amiens. Et alors, si vous voulez trouver quelqu'un qui n'a pas peur d'aller témoigner dans n'importe quel endroit, prenez Larry avec vous, hein, même dans la cathédrale d'Amiens, il va s'amuser à distribuer les traités aux gens, engager les conversations, et c'est ce qu'on a fait. Et on est tombé sur un homme qui, bon, se disait chrétien, et ce qu'il admirait le plus, bon, c'était Jésus, l'homme, hein, son humanité, l'amour pour le prochain. C'était le fait que il mettait toujours les autres avant lui-même, hein, qu'il ne portait pas de jugement sur les autres. Et bon, il avait toutes sortes d'autres choses assez, on va dire, tordues dans sa conception du christianisme, puisqu'on lui demandait, mais qu'est-ce qu'il faut pour aller au ciel? Donc lui, pour lui, il était baptisé, donc c'était bon. Mais après, on commence à continuer à parler un peu plus, et puis il disait, ah, j'espère quand même au ciel trouver des bouddhistes. Je dis, mais vous avez dit, pour aller au ciel, il faut être baptisé. Les bouddhistes, généralement, ils ne se font pas baptiser à l'église catholique. Donc, des conceptions complètement fausses, déjà, de l'évangile, mais de la personne de Christ elle-même. Et donc, on va trouver, hein, parmi les inconvertis, cette excuse, ne jugez point. On va trouver ça même parmi les chrétiens, hein, ne jugez point. Ou lorsqu'il est question de reprendre un frère, lorsqu'il est même question de faire de la relation d'aide, tout jugement devient une attaque personnelle, hein, contre eux. Alors ce que nous allons voir, hein, cet après-midi, justement, c'est qu'est-ce que dit l'Écriture à ce sujet? Qu'est-ce que Christ dit à ce sujet, hein, du jugement? Alors, si on doit se revêtir, hein, d'une attitude christique, hein, dans tous les aspects de notre vie, sommes-nous donc en droit de juger qui que ce soit, sur quoi que ce soit? Que disent les Écritures à ce sujet? Et si, effectivement, on a le droit de juger, dans quel contexte, quelles sont les procédures, quelle est la manière, hein, de juger, et quel est donc le rôle du jugement, également? Alors, premier point que nous allons voir, c'est ne jugez point. Hein, c'est clair et précis, vous n'avez pas le droit de juger. Hein, c'est, effectivement, ce que l'on nous ressort à chaque fois que quelqu'un... envers qui nous allons apporter une sorte de jugement, va nous rétorquer, va dire « Christ l'interdit ». Christ a dit « Ne jugez point ». C'est les paroles de Christ. Donc si tu es chrétien, tu ne dois pas juger. C'est la logique, hein, de cet argument. Bon, le problème, c'est que bon, cet argument, il est assez restreint, assez restrictif. Hein, si vous ouvrez votre Bible dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7, vous pouvez regarder également dans Luc chapitre 6, mais on va regarder dans Matthieu 7, c'est le même événement, les mêmes paroles, plus ou moins. Et donc, dans Matthieu, chapitre 7, effectivement, Christ dit, ne jugez point. Mais est-ce que c'est la seule chose qu'il dit? C'est là le problème. C'est, il dit, ne jugez point, afin que vous ne soyez point jugés, car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Ou comment peux-tu dire à ton frère, laisse-moi ôter une paille de ton œil, toi qui as une poutre dans le tien? Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc, comme je disais, c'est un argument qui est restrictif parce que ils prennent une partie du verset et enlèvent tout le contexte de ce verset. Ils enlèvent les versets qui sont avant et les versets qui sont après, et gardent ce qu'ils veulent, ne jugez point. Alors, bien sûr, en regardant, hein, ne serait-ce que les versets suivants, on comprend bien que, ici, les paroles de Christ sont bien plus, hein, qu'une interdiction. C'est surtout un avertissement que l'on voit. Et en regardant même, hein, les passages qui sont avant, on voit bien que le thème, hein, du passage, les paroles de Christ, parlent de quelque chose de bien plus différent que le simple fait de dire « tu n'as pas le droit de juger ». Donc c'est un argument restrictif, parce que comme on peut le constater dans les versets, dans le premier verset lui-même, « ne jugez point », qu'est-ce qui vient après ?« Afin que ». Donc il y a une raison pour laquelle on ne doit pas juger. Et quelle est cette raison? C'est que nous-mêmes on ne soit pas jugés. Mais est-ce que ça s'arrête là? Non. Parce qu'il dit, on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. C'est-à-dire que ce que l'on doit craindre, c'est la manière dont on juge. Parce que les répercussions vont revenir sur nous, de la façon dont on juge. Donc c'est un argument qui est restrictif, mais c'est un argument, comme j'ai dit, qui est un prétexte. Hein, on dit qu'un verset qui est pris hors de contexte devient immanquablement un prétexte, hein, pour faire dire au texte ce que l'on veut. Et donc le contexte de ce verset, il se situe dans quoi? Il se situe dans le sermon sur la montagne. Ok, hein, chapitre 5, 6, 7, on est en plein dedans, là, dans le sermon sur la montagne. Et quand on lit ces passages, il y a des éléments qui reviennent assez fréquemment, et je dirais un mot qui revient assez fréquemment, c'est hypocrite. C'est hypocrite. Hein, le contexte de ce verset, il est important, il est primordial pour comprendre les propos de Christ sur ce jugement. Alors, comme je l'ai dit, hein, vous regardez dans le chapitre précédent, hein, il parle de l'hypocrisie, hein, de ceux qui qui prient dans les rues. Hein, le verset 5 du chapitre 6, lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, hein, qui aiment à prier debout dans les synagogues. Ensuite, dans le chapitre 7, quand il parle de jugement, il parle encore de l'hypocrisie. Verset 5, hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. Donc ce que Christ ici est en train de parler, c'est surtout de l'hypocrisie. Pourquoi ? Bah, non seulement le contexte du passage est important, mais le contexte historique, social, religieux de l'époque est important aussi. À savoir que bah, ceux qui étaient en train d'écouter parmi la foule, il y avait les pharisiens. Et vous savez plus ou moins hein, ce qu'étaient les pharisiens, hein, quelle était leur perspective hein, de la vie spirituelle, qui était plus une religion hein, qu'une vie spirituelle, qui d'un côté disaient de faire une chose et qui eux-mêmes ont en secret pratiqué les mêmes choses qu'ils interdisaient de faire. Et donc ce que Christ est ici est en train de réprouver, hein, d'interdire, ben, c'est l'hypocrisie du cœur, l'hypocrisie des gens. Christ ici condamne la mauvaise manière de juger, celle qui est animée d'hypocrisie. Et c'est pourquoi il donne cet avertissement à celui qui juge de ne pas juger, parce que s'il est hypocrite, eh bien effectivement il devra s'attendre à un effet boomerang. Ce que je te lance, eh bien, ça va me revenir dans la figure. Alors le problème ici, hein, dans ce passage, c'est que effectivement ce verset est pris hors de contexte. Hein, Christ ne donne pas forcément une interdiction de juger, mais il prohibe la manière de juger d'une manière hypocrite. Alors cet argument hein, de dire qu'on ne doit pas juger parce que Christ l'a dit, ben, se heurte à plusieurs problèmes, à d'autres textes qui montreraient une sorte de contradiction, même entre les propos de Christ lui-même. C'est-à-dire que dans ce passage, si on se limite à dire que Christ dit « ne jugez point », eh bien, dans un autre passage, dans l'évangile de Jean, chapitre 7, verset 24, et ici c'est le même mot grec, « ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice ». Alors pourquoi Christ interdirait de juger, mais ensuite dire « jugez selon la justice » Une incohérence là. Non, c'est pas une incohérence si on analyse le passage de Matthieu 7 dans son contexte, à savoir que ce que Christ condamne, c'est l'hypocrisie dans le jugement, et non pas le jugement lui-même. Puisque dans Jean chapitre 7, il dit très bien de juger selon la justice. Or, si on ne doit pas juger, comment on explique ce verset de Jean chapitre 7 ? Ce même terme hein, de juger, hein, vous le retrouvez également dans Luc chapitre 6, hein, le même passage hein, qui est parallèle avec Matthieu 7. Dans Jean chapitre 8, hein, dans Luc chapitre 12, verset 57, hein, Luc 12, 57, regardez ce verset, parce que là aussi c'est intéressant. Luc chapitre 12, et verset 57. Bon, regardez le verset juste avant, parce que verset 56, ça commence avec « hypocrite ». Vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci, et pourquoi ne discernez-vous pas de vous-même ce qui est juste? Et dans ce verset 57, bon, Louis II traduit hein, par discerner, mais c'est encore ce même verbe que l'on a dans Matthieu, hein, le verbe grec c'est krino, eh bien on le retrouve ici, dans ce chapitre 12 de Luc, au verset 57. C'est-à-dire que là, ce que, encore une fois, Christ condamne, c'est l'hypocrisie des gens, hein, verset 56, et dans le verset 57, il dit « Et pourquoi ne discernez-vous pas, donc ne jugez-vous pas de vous-même ce qui est juste ?» Donc de dire, hein, dans l'absolu, Christ a dit « Ne jugez point, donc il ne faut pas juger », c'est incohérent comme argument. Parce que l'on voit bien que même dans les mêmes paroles de Christ, dans d'autres passages, Christ ne condamne pas le jugement, mais nous montre comment juger. Tout comme en Matthieu chapitre 7, il nous montre comment juger. Dans Matthieu, chapitre 18, verset 15, nous montre ce que Christ est en train d'essayer d'enseigner, justement, c'est la manière de juger. Matthieu, chapitre 18, et verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi une ou deux personnes afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de deux ou trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'église. Et s'il refuse d'écouter l'église, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Je vous dis en vérité, tout ce que vous lirez sur terre sera lié dans le ciel. Tout ce que vous délirez sur la terre sera délié dans le ciel. Bon, ici, dans ce passage, Christ montre quelque chose qui est important pour nous chrétiens, surtout dans l'église. C'est la manière de régler les conflits, les problèmes, de régler le péché. Quand on constate le péché dans la vie de quelqu'un. Qui est-ce qui a ici la responsabilité de reprendre? Si ton frère a péché, il parle à qui? Il parle aux gens. Si ton frère a péché, va et reprends-le. Donc on a une responsabilité en tant que chrétien, lorsqu'un frère vit dans le péché, tombe dans le péché, on a la responsabilité de reprendre ce frère. Et le fait de reprendre, automatiquement, on apporte un jugement sur cette personne, n'est-ce pas? Parce qu'on lui indique, on lui montre ce qu'il a fait de mal. Donc encore une fois, ici, on se heurte à une incohérence, à une incompréhension, à une contradiction. Si on reste crampé sur le fait que Christ a dit « ne jugez point », pourquoi est-ce qu'il donne des indications de comment juger? Et qui nous donne à nous la responsabilité de le faire. Ici, le mot grec pour reprendre a le sens de condamner même. On retrouve ce même mot, justement, dans Éphésiens chapitre 5, et verset 11. Je vous invite à regarder dans ce passage. Éphésiens chapitre 5, et verset 11. On peut lire le verset 10 aussi. « Examinez ce qui est agréable au Seigneur, et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. » Là, Christ il nous dit, vous devez juger, vous devez même condamner. On doit même condamner. On condamne quoi? Les œuvres infructueuses des ténèbres. Donc si on ne doit pas juger du tout, alors pourquoi encore une fois, à plusieurs reprises, Christ donne des indications de comment juger, même que l'on doit condamner certaines choses. Comment est-ce qu'on explique? Autrement que, si on prend les choses dans son contexte, Christ ici n'est pas en train d'interdire le jugement, mais nous montre comment il nous faut juger. Avec cet argument de ne juger point, souvent ce que l'on entend aussi, c'est que Dieu seul peut juger. N'est-ce pas? Moi, j'ai déjà eu cette réponse-là. Une fois, il y avait quelqu'un sur Facebook qui avait écrit quelque chose par rapport au fait que les gens ne devraient pas critiquer, juger les autres, etc., etc. Moi-même, je lui ai répondu. Je dis, mais sans la critique, sans le jugement, on ne peut pas grandir. On ne peut pas s'améliorer. Donc il y a des incohérences dans l'argumentation des gens, et je vais vous dire pourquoi. Qui ici a déjà fait l'objet d'un jugement? Quelqu'un qui l'a repris, quelqu'un qui lui a dit ce qu'il y avait de mal dans sa vie. Moi oui, mes parents ils m'ont dit souvent quand j'étais petit. Est-ce qu'on a aimé ça? Est-ce qu'on a apprécié cela? Personne n'aime être jugé. Personne n'aime être repris sur ce qu'il a fait de mal. Pourquoi est-ce que les gens sont hostiles à l'Évangile? Parce que l'Évangile leur fait face et leur montre leur péché. Et personne n'aime ça. Donc cet argument part du principe que les hommes n'ont pas la capacité ni l'autorité de rendre un bon jugement. Encore une fois, on a vu précédemment que Christ nous a confié cette responsabilité. C'est qu'il y a une capacité quelque part. Et donc dans l'absolu, cet argument ne tient pas. Sinon, pourquoi Dieu, encore une fois, nous demande de juger? Pourquoi Dieu lui-même a mis en place des juges? On a tout un livre sur les juges. Pourquoi est-ce que dans Romains 13, qu'on a cité ce matin, Dieu nous dit d'être soumis aux autorités, et dans les autorités qui sont listées, il parle des juges également. Pourquoi? Dans ce passage de Romains 13, Paul nous dit que ces personnes ont été instituées de Dieu, ce sont des ministres de Dieu, que Dieu a mis en place. Donc Dieu lui-même a mis en place des juges. Il en a appointé des juges. Alors si Dieu dit il ne faut pas juger, d'un autre côté il dit il faut juger et il met en place des juges, il y a une incohérence. Et l'incohérence, c'est pas la parole de Dieu qui est incohérente, l'incohérence vient de l'interprétation que les gens font de l'Écriture. Donc si personne d'autre que Dieu n'a le droit de juger, pourquoi dans les évangiles, dans les épîtres, on retrouve plusieurs passages qui nous parlent de la manière de gérer même la discipline dans l'Église, soit dans Corinthiens 5, ou même Jacques, chapitre 5, qu'on a lu ce matin. J'aimerais bien revenir à ce passage de Jacques, qu'on a regardé un peu ce matin avec, avec le frère Boada. Où c'était... Bon, Jacques chapitre 4, il avait cité, n'est-ce pas? Lorsqu'il dit, verset 11, quand il dit, ne parlez point mal des uns des autres, frères, celui qui parle mal d'un frère ou qui juge son frère parle mal de la loi et juge la loi. Or, si tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Un seul est législateur et juge, c'est celui qui peut sauver et perdre. Mais toi, qui es-tu qui juge le prochain? Alors là, encore une fois, les gens pourraient dire, mais ce passage-là, il condamne le fait de juger les autres, n'est-ce pas? Mais encore une fois, la première règle, quand on essaye de comprendre les Écritures, c'est de remettre les choses dans les contextes. Qu'est-ce qu'il y a dans les premiers versets? D'où viennent ces luttes? D'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions? Qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas, vous êtes meurtrier, vous êtes envieux, etc., etc. Si Jacques il dit il faut pas condamner, pas juger, là il fait la liste des choses que les gens ils sont en train de faire et c'est pas très beau, n'est-ce pas? Les querelles, les luttes, les passions, envie, le meurtre. C'est pas très gentil à dire tout ça. Et dans le même chapitre, il parle de ce, encore une fois, le jugement ici dont il parle, c'est pas qu'on ne doit pas juger, mais il y a une manière de juger. Et cette manière-là, c'est de ne pas être hypocrite. On revient à cette hypocrisie. Parce que là, ils jugeaient dans l'hypocrisie, parce qu'ils jugeaient les autres, ils condamnaient les autres, mais eux-mêmes étaient coupables. Eux-mêmes pratiquaient les mêmes choses. Donc le Seigneur demande pas aux hommes de cesser d'examiner, de discerner, de juger, mais il demande justement aux hommes de renoncer à la tentation de se prendre pour Dieu. Et on va voir ça un petit peu. Qu'il y a deux sortes de jugements. Okay. Il y a deux sortes de jugements. Alors, deuxième point, c'est comment donc juger d'une manière biblique, d'une manière christique. Puisque, évidemment, ici, dans le passage de Matthieu, Christ n'interdit pas de juger, mais il interdit une certaine manière de juger. Or, bien sûr, avant tout, il est important pour que celui qui juge s'examine lui-même d'abord. Ok? Parce que sinon, il va tomber sous le coup de l'hypocrisie. Si quelqu'un qui juge, prenons un exemple, si on avait une grosse affaire dans les médias, et un juge qui est en train de s'occuper d'une affaire de corruption financière, et que lui-même, de l'autre côté, il a envoyé son argent en Suisse. c'est assez répandu en ce moment, apparemment. Bon. Est-ce que cet homme serait capable et à même d'apporter un jugement qui soit impartial? Et peut-être même il condamnerait la personne pour que toute l'attention soit sur le coupable et pas sur lui-même. Donc on considérerait tous que ce juge est hypocrite, qui ne fait pas les choses correctement. Ce qui est important de noter, donc, c'est que ce que Christ condamne, c'est l'hypocrisie dans le jugement. Et le fait que certains, justement, se prennent pour Dieu quand ils jugent les autres. Alors, comme j'ai dit, il y a deux façons de juger. Et là, ce dont on parle, c'est de juger avec hypocrisie, de juger les motivations, les pensées des gens, le cœur des gens. Je sais pas pour vous, mais moi, je connais pas vos pensées. Je connais pas vos cœurs. Je ne peux pas. Seul Dieu le peut. Seul Christ pouvait regarder les cœurs. Et c'est pour ça que Christ connaissait les cœurs des pharisiens et qu'il pouvait leur dire, race de vipères, vous avez pour père le diable. parce qu'il connaissait les cœurs de ces gens. Nous, nous ne pouvons pas. On n'a pas cette capacité de connaître ce qu'il y a dans les cœurs des gens. Et donc, les seules choses que nous sommes aptes à juger, ce sont quoi? Les actions, les paroles des gens. C'est la seule chose que nous pouvons juger. Dans Matthieu chapitre 7, on revient à ce passage de Matthieu chapitre 7. Et ici, on va voir que le jugement biblique ne se repose pas sur la valeur d'un homme, mais sur ses actions. On va prendre donc Matthieu chapitre 7 à partir du verset 15. Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis, mais au-dedans ce sont des loups ravisseurs. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits, cueille-t-on des raisins sur des épines ou des figues sur des chardons. Je ne sais pas pour vous, mais moi j'ai jamais vu de fraises sur un poirier, par exemple. Tout bon arbre porte de bons fruits, mais le mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits ou un mauvais arbre porter de bons fruits. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est donc à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Donc c'est dans ce même passage de Matthieu 7. Christ, il nous montre que ce que nous pouvons juger, ce que même nous devons juger, ce sont quoi? Les actions, les fruits. Ça, nous sommes aptes de juger. On peut pas juger le cœur de la personne, mais on peut juger ses actions ou ses paroles. Donc, les gens vont dire, par exemple, comme argument, « Qui es-tu pour me juger? Tu ne vaux pas mieux que moi. » Qu'est-ce que je réponds à ça? Tu as tout à fait raison, je ne vaux pas mieux que toi. Parce que la base sur laquelle j'apporte un jugement, c'est pas par rapport à ma personne. Et le jugement que j'apporte, c'est pas sur la valeur de la personne. C'est sur ce que disent les Écritures. On a en France un code de loi, un code civil. On a des lois. Et quand on a un procureur qui va chercher à faire condamner quelqu'un, qui va l'amener devant les tribunaux, sur quoi est-ce qu'il va s'appuyer pour porter cette accusation? Un, sur les faits de la personne. Deux, sur les textes de loi. C'est les textes de loi qui vont guider et diriger ce procureur en disant que ce que cette personne a fait, c'est répréhensible par la loi et donc elle doit être condamnée. Donc ce sont les œuvres que l'on doit juger. Notez que on juge les actions. Mais j'ai parlé aussi de la manière de juger ses actions. Dans ce passage de Matthieu 7, Christ il dit « Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. » Alors ce qui est intéressant dans ce verset-là, c'est que il parle condamne les uns pour être hypocrites, parce qu'ils ont une poutre dans leur œil, et puis ils essaient d'enlever le petit bout de paille qu'il y a dans l'œil de l'autre. Beaucoup de gens vont utiliser même ce passage pour dire exactement la même chose que ce que j'ai dit. Tu ne vaux pas mieux que moi, tu vaux même peut-être pire que moi. Dans le sens où toi-même, tu as une poudre dans ton œil, et qu'est-ce que tu viens m'embêter avec la paille que j'ai dans le mien? Qu'est-ce que Christ y dit? Il dit, mon hypocrite, ôte premièrement la poudre qui est dans ton œil, et après, qu'est-ce que tu auras? Tu verras comment ôter la paille de l'œil de ton frère. On en revient encore une fois à ce que Christ n'est pas en train de condamner le jugement, mais de montrer la manière d'apporter ce jugement. C'est-à-dire que si moi, je désire apporter un jugement sur quelqu'un, je dois m'examiner moi-même. Et là, je serai apte à pouvoir enlever la paille qui est dans l'œil de mon prochain. Et je ne serai pas hypocrite à ce sujet. Donc on doit juger en vérité. L'hypocrisie, c'est le contraire de la vérité. L'hypocrisie, c'est le mensonge. N'est-ce pas? C'est du mensonge. C'est se faire paraître pour ce qu'on n'est pas. C'est ça l'hypocrisie. C'est porter un masque, comme les acteurs. C'est un acte, c'est un jeu. Et très malheureusement, il y a beaucoup de chrétiens qui jouent ce jeu. Qui sont hypocrites. Qui vont chercher à accuser, condamner les frères. Pourquoi? Ben, pour leur propre élévation, n'est-ce pas? Souvent, lorsque quelqu'un juge avec hypocrisie, c'est quelqu'un qui déjà, pour ma part, déjà il y a de l'orgueil dans sa vie, parce qu'il se croit déjà supérieur à l'autre. Il a une poutre énorme dans son œil, mais il voit la paille dans l'autre, dans l'œil de l'autre. C'est quelqu'un qui est déjà enflé d'orgueil. Et ce qu'il va chercher à faire, c'est écraser l'autre, le rabaisser, pour que lui soit élevé par rapport à l'autre. Même si moi j'ai mon péché dans ma vie, mais toi t'en sais rien. Moi j'ai vu le tien et je te condamne, et maintenant moi je parais pour quelqu'un de bien. L'hypocrisie, paraître, mensonge. Et donc c'est sur la base de la vérité que l'on peut apporter un jugement. C'est-à-dire que si quelqu'un fait quelque chose qui est un péché, et que je le vois, je constate, comment est-ce que je sais que c'est un péché tout d'abord? Parce que la parole de Dieu me dit. C'est la parole de vérité. Et donc c'est sur la base de la parole que je vais pouvoir apporter un jugement sur une personne. C'est pas en disant que ah, t'as fait ce péché, moi j'aurais jamais fait ça. Ça c'est de l'hypocrisie. Non. La parole de Dieu dit que ce que tu as fait c'est un péché. Et il faut corriger cela. C'est sur la base donc de la vérité biblique que l'on doit juger. Hein. Le jugement biblique se base sur la parole de Dieu. Nous avons les moyens en tant que chrétiens d'apporter un jugement. L'apôtre Paul, dans 1 Corinthiens chapitre 6, verset 3, il parle justement de litiges, de problèmes dans l'Église. Et verset 3, il dit « Ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde ?» Ah tiens. Et si on s'arrêtait là, il y en a qui diraient « Ah, tu vois, c'est dans le futur qu'on jugera, c'est pas maintenant. » N'est-ce pas? Non, dans le futur, on va juger le monde, mais on va pouvoir le juger à la manière de Christ parce qu'on sera rendu semblable à Christ. Et là, on va pouvoir juger parfaitement. Mais ce qu'il dit dans la suite du verset, c'est donc, ne savez-vous pas que les saints jugeront le monde? Et si c'est par vous que le monde est jugé? Ah ben, tiens, on parle du présent maintenant. Êtes-vous indigne de rendre les moindres jugements? Donc la question que Paul y pose, c'est, vous allez être juge, plus tard, mais vous avez les capacités maintenant de juger. Vous en avez les capacités. Et rappelez-vous à qui il parle là. L'église de Corinthe. Si on voulait s'acharner sur des mauvais exemples, on prendrait l'église de Corinthe. On sait ce qui se passait dans cette église, que Paul a dû intervenir, qu'il a dû juger, condamner. Qu'il a poussé même l'Église à prendre position par rapport au péché dans cette Église. Mais là, Paul leur dit, vous avez donc les moyens de juger. Et ce jugement, c'est sur la base des Écritures, sur la base des principes bibliques. Commandement de Dieu, tu ne voleras pas. Voilà, c'est facile à juger. Quelqu'un qui vole, la Bible elle dit, c'est un péché, donc voilà, il va falloir qu'on corrige cela. Là où il y a, de la confusion chez les gens, c'est que quand la personne apporte un jugement qui est biblique, un jugement qui est fondé, c'est que pour ces personnes, celui qui juge, c'est celui qui condamne. C'est pas à nous de condamner vraiment toutes les actions des gens, d'apporter une condamnation dans le sens où on va vraiment les mettre au plus bas possible, mais c'est l'Esprit de Dieu qui convainc de péché. C'est-à-dire que quand moi je vais reprendre un frère, qu'est-ce qui va faire la différence? La manière dont je vais apporter ce jugement, avec vérité, et on va voir d'autres points après aussi, mais ça va être sur la base des Écritures. Mais après, qu'est-ce qui va faire la différence? C'est la personne qui est coupable, est-ce qu'elle va laisser le Saint-Esprit agir dans sa vie, la convaincre de péché, et l'amener à la repentance. C'est ça qui va faire la différence. Nous devons donc juger en vérité. Nous devons juger également en amour, avec amour. C'est-à-dire que si on enlève cet élément-là de notre jugement, oui, les gens, ils vont nous haïr par rapport à notre jugement. On a cité ce matin, on a lu Éphésiens chapitre 4, à partir du verset 11, on a vu que Dieu avait donné les uns comme apôtres, hein, comme prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs. Dans quel but? Perfectionnement, édification, hein, unité de la foi, la connaissance du Fils de Dieu. Hein, et que l'on arrive à l'état d'homme fait, à la stature parfaite de Christ. Moi, quand je suis allé à l'école, j'avais des tests, j'avais des devoirs. Vous savez quoi? Mon prof, mes profs, ils ont osé corriger mes fautes. Oui, c'est vrai.
Avec du rouge.
Ah ouais, plein la feuille. Hein. Du rouge plein la feuille. Mais pourquoi est-ce qu'ils ont fait cela? Bah, s'ils ne laissaient pas, s'ils ne corrigeaient pas, s'ils ne montraient pas ce que moi j'avais fait comme erreur, comment est-ce que moi je m'améliorerais dans le sujet qu'ils étaient en train d'enseigner? Le professeur est obligé d'apporter un jugement, une correction, pour mon perfectionnement. Et dans le ministère, dans l'église locale, c'est la même chose. Les pasteurs, à des moments donnés, sont obligés d'amener de la discipline, de faire de la discipline dans l'église, pour le perfectionnement des saints, pour montrer, il doit montrer ce qui ne va pas, pour que les gens corrigent cela et s'améliorent. Mais ça doit être fait avec amour. Dans ce même passage, hein, le verset 15, qui est la source du nom de cette conférence, « Mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. » Donc si notre but c'est de grandir en Christ, eh bien on doit même nous-mêmes accepter les jugements que les autres personnes font sur nous lorsque nous péchons, pour notre perfectionnement. Mais ça doit être fait avec amour. Vérité et amour. Avec douceur également. Galates chapitre 6, verset 1er. Frère, si un homme vient à être surpris en faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le. Déjà, là aussi, il montre qui a le droit de juger ceux qui sont spirituels. C'est-à-dire que ceux qui, eh bien, sont en règle avec le Seigneur. Hein? Vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Avec un esprit de douceur. Ce que tu as fait est mal! Ouh, ça vous a réveillé. Imaginez un peu, quelle est notre réaction quand quelqu'un nous parle comme cela? On se referme tout de suite. On se referme tout de suite, on n'écoute plus. Quelqu'un qui va nous aboyer dessus, là, comme un rottweiler, on va fuir. Mais là, Galates chapitre 6, verset 1er. Redressez-le avec un esprit de douceur. Vérité, amour, douceur. Justice également. On a parlé de Jean chapitre 7, verset 24, hein, quand Christ a dit ne jugez pas selon l'apparence. L'apparence. Hein, on peut parler d'apparence. Et les apparences sont souvent trompeuses. N'est-ce pas? C'est une petite anecdote qui vient de mes deux grands frères. David et Daniel, il y avait à Thionville un clochard qui voyait assez souvent, qui n'était pas, j'imagine, pas très loin du lycée. Il le voyait assez souvent, si bien qu'il le reconnaissait. Ils l'ont reconnu. Ils l'ont reconnu quand ils sont allés à Strasbourg et qu'il était au volant d'une Mercedes. Les apparences sont souvent trompeuses. Donc on ne peut pas juger non plus sur les apparences, il faut juger sur les actions. Ainsi, on ne peut pas juger les motivations, les pensées du cœur des gens, ni même sur l'apparence. C'est quelque chose que l'homme fait naturellement. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Et c'est en cela que Dieu il apporte un jugement plus parfait, parce qu'il peut regarder au cœur. Nous sommes limités aux actions. On ne peut pas s'attarder sur les apparences, on ne peut pas essayer de condamner, d'apporter un jugement sur le cœur, parce qu'on n'en a pas les capacités. Nous devons regarder également à la manière, lorsque l'on juge, aux objectifs que l'on se fixe quand on juge. Celui qui juge d'une mauvaise manière, quels sont ses objectifs? Se valoriser lui-même par rapport à l'autre, en montrant toutes les fautes de l'autre, et puis nous, petite auréole et tout, là. Le mauvais jugement est animé d'un esprit d'orgueil, souvent d'un esprit de vengeance même. Tu m'as fait ça, attends, moi je vais t'avoir. Ah, tu me reproches mon péché, ben tiens, voilà la liste des tiens. Vengeance. Par contre, un jugement qui est fait sur les bases, la base des Écritures, un bon jugement biblique, se fait dans le but tout d'abord de glorifier Dieu. Parce que ce qu'on recherche à faire, c'est pas simplement de condamner le péché, mais c'est d'amener une personne à la sainteté. Et c'est la sainteté dans la vie d'une personne qui glorifie Dieu. Le jugement biblique est dans le but de glorifier Dieu, dans le but de gagner. Si tu as ton frère qui a péché, va, reprends-le. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. Voilà le but du jugement. C'est de rétablir un frère qui s'est perdu dans le péché, de le rétablir dans la communion avec le Seigneur, dans la communion avec les frères et sœurs, avec l'Église. Dans le but de relever, de rétablir donc un frère. Les effets du mauvais jugement, on le voit. Les gens du monde haïssent les chrétiens. Et bon, on le sait, Christ il a dit, le monde va vous haïr. On le sait. Mais je crois que ce qu'il faut faire attention, c'est les raisons pour lesquelles ils nous haïssent. Cette même hypocrisie ici que Christ a condamnée, je crois que bien souvent nous chrétiens avons été coupables de cette hypocrisie envers les inconvertis. Et c'est pour ça qu'ils haïssent les chrétiens, notamment. Un des reproches qui est fait fréquemment de la part des inconvertis envers les chrétiens, c'est que vous n'êtes qu'une bande d'hypocrites. Vous savez quoi? Ils n'ont pas forcément tort. Malheureusement, ils n'ont pas forcément tort. Ce qui est triste, c'est que pour la personne qui est jugée de manière hypocrite, elle va rejeter ce jugement, elle va jamais se repentir parce qu'elle voit l'hypocrisie dans nos paroles, dans notre vie. Et elle va associer donc ce mauvais jugement à l'ensemble du christianisme. Pour le juge, qui juge d'une mauvaise manière, on l'a vu tout à l'heure, il va subir la même chose. Vous savez, même dans le monde, les gens n'aiment pas les hypocrites. Tout le monde n'aime pas les hypocrites. Et quand on voit que quelqu'un qui est hypocrite et qui juge selon son hypocrisie, les gens vont se retirer de lui. Si vous avez un ami qui est hypocrite, il ne va pas être votre ami très longtemps, n'est-ce pas? Vous allez en avoir marre de son hypocrisie. Vous allez vous séparer de lui. Le monde fait la même chose. S'il voit l'hypocrisie dans notre vie, ils ne vont pas vouloir s'associer avec nous. Ils ne vont pas vouloir. Et les effets du bon jugement, le jugement biblique va produire donc la conviction dans le cœur de la personne qui est coupable, va l'amener à la repentance, à la soumission dont on a parlé ce matin, va l'amener à la réconciliation, à la louange de Dieu. Et pour le juge, le fait de gagner une âme. Que ce soit un inconverti, on l'a vu ce matin, si on gagne une âme à Christ, eh bien, les anges au ciel chantent la gloire de Dieu pour une âme qui se convertit. Pour un frère que l'on reprend et qui est rétabli dans son communion avec Dieu, c'est pas comme s'il avait perdu son salut ou quoi que ce soit, mais on l'a gagné dans le sens où on l'a rétabli. Et je crois que là, même là, j'en suis convaincu, les anges glorifient Dieu pour cela. Tout d'abord parce qu'une personne est revenue à Christ, mais aussi parce qu'il y a eu un bon jugement qui a été fait, qui a permis à cette personne de revenir à Christ. Ce que nous allons regarder dernièrement, ce sont les dangers de tout ceci. Il y a des dangers. Vous l'aurez compris que, avec le politiquement correct que le monde nous pousse à avoir sur divers sujets, il y a un danger. Et comme j'ai dit, ce qui m'inquiète, la tragédie la plus grande, c'est que dans l'Église elle-même, il y a des chrétiens qui usent de ces arguments, qui refusent tout jugement. Qu'est-ce que ça produit dans le politiquement correct? Eh bien, tout d'abord, ça empêche l'évangélisation. Que dit l'Évangile? Car tous ont péché. Je ne peux pas apporter l'Évangile sans dire à la personne qu'elle est pécheresse. Je ne peux pas. Ça fait partie de l'Évangile. Et en cela, oui, il y a un jugement, mais la condamnation, elle est déjà là depuis longtemps, c'est Dieu qui l'a décrété. C'est car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, on ne peut pas être dans la présence de Dieu tant qu'on est pécheur, tant qu'on n'a pas fait cet acte de repentance. La Bible dit également, il n'y a pas de juste, pas même un seul. Bon, là, ça nous met tous dans le même panier au moins. Mais l'Évangile lui-même apporte un jugement. Le politiquement correct nous dit, ben, toi, tu as ta foi, c'est très bien pour toi, laisse-moi tranquille. Le politiquement correct, hein, qu'on disait avant, ouais, bon, ça va, c'est tranquille, aujourd'hui est de plus en plus poussé. Actuellement, aux États-Unis, hein, il y a toute une, on va dire, un scandale, hein, des choses qui font révolter les chrétiens, les conservateurs, etc. C'est que il y a un homme qui a été appointé par le président, hein, au niveau de l'armée, et cet homme cherche à pousser une législation dans l'armée qui ferait que toute personne, hein, qui évangéliserait, qui parlerait de sa foi, serait traitée comme un traître à la nation. Ce qui est intéressant, c'est que le politiquement correct ne fonctionne que dans un sens, apparemment. Hein, on est peut-être un peu loin de tout ça en France, mais aux États-Unis, vous serez probablement horrifié de voir combien l'acharnement contre les chrétiens est de plus en plus grand. Donc, politiquement correct, le fait de ne plus juger, eh bien, va nous empêcher d'évangéliser. Tu n'as pas le droit de juger, tu n'as pas le droit de me dire que je suis pécheur. N'est-ce pas? Il faut tolérer, hein, il faut être politiquement correct. Le jugement, c'est pas nous qui l'apportons, c'est la parole de Dieu. Apocalypse, chapitre 21, verset 8, ce sont des paroles très fortes, n'est-ce pas? Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Personne n'a envie d'entendre cela. L'évangélisation ne se limite pas, hein, au jugement de Dieu. Merci Seigneur. Malheureusement, je crois qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont tellement focalisés sur ce que tu fais, c'est mal. L'homosexualité, combien d'entre vous considèrent que les homosexuels sont vos ennemis? Qu'est-ce que Christ a dit vis-à-vis de vos ennemis? Aimez vos ennemis. On peut condamner ce qu'ils font, mais nous devons leur apporter tout l'amour que l'Évangile nous a apporté. L'Évangile ne se limite pas à jugement, mais il nous montre l'amour et la grâce de Dieu. Mais bien, bien trop souvent, hein, il y a eu tellement d'abus dans certains groupes chrétiens où on mettait tellement l'accent sur le péché des gens qu'on oubliait de leur parler de l'amour et de la grâce de Dieu. Qu'on oubliait de leur dire que tous ont péché. Ah ben oui, moi aussi. Les dangers, c'est que ça empêche également la croissance spirituelle. On a vu les dangers vis-à-vis des inconvertis, il y a des dangers pour les chrétiens également. Si on devait s'arrêter de juger complètement, on empêcherait la croissance spirituelle des uns et des autres. 1 Pierre chapitre 5, verset 5. 1 Pierre chapitre 5, verset 5 nous dit « De même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis, bon, encore une fois on parle de soumission, hein, soyez soumis aux anciens, et dans tous vos rapports mutuels, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais fait grâce aux humbles. » C'est-à-dire que quand quelqu'un va m'apporter un jugement, va me reprendre, et que je dise « Tu n'as pas le droit de me juger », qu'est-ce que je suis en train de faire? Ben, je ne suis pas en train de me soumettre, n'est-ce pas? La parole de Dieu nous dit « Soumettez-vous les uns aux autres ». S'il y a quelqu'un, un frère qui vient me voir pour me reprendre, si j'applique le verset de me soumettre à l'autre frère, eh bien, je dois écouter son jugement. Et je dois examiner ma vie et me dire, bon, est-ce que j'ai péché? Oui, non. Ou est-ce que j'ai fait quelque chose qui pourrait faire croire que j'ai fait cela? L'idée, c'est pas qu'on refuse tout jugement. L'idée, c'est qu'on doit examiner aussi, bon, les jugements qui sont apportés, et d'examiner notre propre vie. Dans quel but? Dans le but, comme on l'a vu précédemment, le perfectionnement l'édification, d'arriver à la stature parfaite de Christ. Éphésiens chapitre 5, versets 20 et 21, « Rendez continuellement grâce à Dieu le Père pour toutes choses. » Vous savez quoi? Ça inclut les jugements aussi. Même s'ils sont mauvais. Toutes choses, rendez grâce à Dieu continuellement, hein, pour toutes choses au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Encore une fois, on retrouve la soumission. Si on applique la soumission dans notre vie en tant que chrétien, eh bien, on va réagir correctement lorsque quelqu'un va nous reprendre. Ce qui implique que quand il y a un chrétien qui refuse tout jugement dans sa vie, qu'est-ce qu'il montre? Insoumission. Il montre aussi de l'orgueil, parce que qui es-tu toi pour me juger? Hein? Quand ils disent tu vaux pas mieux que moi, grosso modo ils disent moi je vaux mieux que toi. Donc celui qui refuse le jugement bien fondé fait preuve d'une grande immaturité spirituelle. Non, regardez un peu hein, dans les livres des proverbes, on a plusieurs proverbes hein, qui parlent de bah, celui qui est fou c'est celui qui refuse l'enseignement, hein, celui qui est fou c'est celui qui refuse d'être corrigé. C'est pour la croissance spirituelle. Dans le but de grandir, dans le but de produire hein, du fruit. Donc ce politiquement correct, le fait d'interdire tout jugement, est plutôt dangereux, et pour le monde, et pour le christianisme. Donc il empêche la croissance spirituelle, il affaiblit le christianisme. Hein, les mauvais jugements donne hein, au monde les raisons encore de nous haïr encore plus. Malheureusement pour les mauvaises raisons. Ils voient notre hypocrisie. Hein, ils ont vu hein, l'hypocrisie hein, dans la vie d'hommes comme, excusez-moi de les nommer, mais ce sont des exemples, ils ont fait des choses publiques, hein, c'est reconnu par tout le monde. Jack House aux États-Unis, hein, Jimmy Swaggart, et plus récemment, Ted Haggard. Ted Haggard, qui était le président hein, du mouvement évangélique aux États-Unis, qui, son cheval de bataille, c'était l'homosexualité. C'était de condamner, combattre, etc., l'homosexualité, a été pris en flagrant délit avec un homme. Alors, on ne peut pas donner meilleur exemple d'hypocrisie. Et le monde voit ces choses. Il voit des chrétiens qui vont condamner, avec souvent de la haine, et ils vont nous dire hypocrites. Et ils ont raison. Ils ont raison. Pour finir, vous savez, on a tous subi des jugements, bons ou mauvais. En tant que fils de pasteur, en tant que fils de directeur d'institut, vous ne pouvez pas imaginer ce qu'on a subi. Mais les mauvais jugements ne doivent pas nous empêcher d'accepter les bons jugements. Il y en a qui, à force de mauvais jugements, eh bien, vont tout refuser. Rien à faire de ce que tu dis, je n'ai rien à faire de tes critiques envers moi, je vis ma vie comme bon me semble. Et ça, c'est très dangereux. Par amour pour mes frères, je me dois de les reprendre quand je constate ce qui ne va pas dans leur vie. Et j'espère qu'eux-mêmes vont faire la même chose pour moi. C'est par amour que nous le faisons. Réfléchissons un petit peu. Christ a donné sa vie pour nous, par amour, pour nous sortir du péché. Et si on voit quelqu'un qui est en train de repartir dans l'autre direction, vous ne pensez pas que par amour, on devrait aller le chercher? Par amour pour mes frères, pour leur bien, pour mon bien, il est important que nous apportions un bon jugement. Comme on l'a dit, fondé sur la vérité, sur l'amour, sur la douceur. Et ça, ça va produire les bons fruits dans notre vie. Ça, ça va nous aider à grandir en Christ. Ça, ça va nous aider à devenir à son image. Alors, à la question, encore une fois, juger ou ne pas juger, je dirais oui, selon ce que la parole de Dieu nous enseigne. C'est important pour nous-mêmes, pour nos frères et sœurs. C'est un acte d'amour quand c'est bien fait, selon la parole de Dieu. C'est jamais facile, c'est jamais évident, que ce soit pour la personne qui est jugée ou la personne qui apporte un jugement. C'est jamais facile. Pourtant, c'est quelque chose que le Seigneur Jésus-Christ lui-même nous a demandé de faire. Si tu vois ton frère pécher, va et reprends-le. Va et reprends-le. Alors j'espère que, je sais, on aurait pu, comme d'autres l'ont dit, passer beaucoup plus de temps sur ces sujets-là, hein, passer plus de temps en détail dans de nombreux passages qui parlent du jugement. Mais une chose est certaine, c'est que nous avons cette responsabilité, ce devoir. Il doit être fait avec amour. Mais merci Seigneur, un jour, nous serons tous parfaits. Un jour, nous serons tous à la stature parfaite de Christ. Il n'y aura plus cette responsabilité-là qui n'est pas facile. Parce que nous serons tous comme Christ, finalement. Mais entre-temps, on sait très bien, moi-même, vous-même, on n'y est pas. On a nos péchés, on a nos manquements, on a nos faiblesses. Et on a besoin de l'encouragement. L'encouragement, c'est pas simplement « tu peux mieux faire ». Si j'avais ma prof qui m'avait mis sur ma feuille, sur mon devoir « tu peux mieux faire », sans me dire ce que je devais mieux faire, ça ne me servira à rien. Ça ne m'aurait servi à rien. Alors sachons accepter avec humilité, avec soumission, les jugements qui nous sont apportés, de les examiner à l'aide des Écritures, voir s'ils sont fondés, corriger cela. On l'a vu, hein, toute Écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour corriger, n'est-ce pas? C'est la base